Ce matin, nous allons entrer par la grande porte de l'Écriture, qui est le premier livre de la Bible, et nous allons nous pencher sur le premier chapitre, le chapitre de Genèse 1. C'est peut-être parfois le premier contact avec la Bible. Si vous n'avez jamais connu la Bible, et si vous l'avez achetée comme Joachim, alors Joachim, tu as démarré par Marc, tu nous disais, mais probablement que si vous avez eu un jour une Bible entre les mains, ben vous l'avez commencé comme n'importe quel livre. Et comment est-ce qu'on commence un livre ? Eh bien, on le commence par sa première page, et c'est peut-être là que vous avez un jour lu Genèse 1. Ce premier chapitre nous révèle nos origines, d'où nous venons. Et si la plupart d'entre nous ici vivent avec cette connaissance de ce texte, essayons juste de nous mettre à la place de quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas ses origines, quelqu'un qui vit avec ces questions, mais d'où venons-nous ? D'où vient ce monde ? La science nous explique un certain nombre de choses sur nos origines, mais elle n'est pas en mesure de tout dire. Y a-t-il un Dieu ? Y a-t-il un Créateur ? Comment faut-il comprendre cette beauté et cette harmonie qui nous entoure ? Comment vivre quand on ne connaît pas ses origines ? Nous allons lire ce matin un texte qui probablement est très connu d'entre vous. Mon objectif ce matin, c'est de vous montrer comment ce texte de Genèse 1 fonctionne de manière à éclairer le sens qu'il a pour nous. Donc, ce matin, je vous annonce tout de suite, je vais être un peu technique, mais j'espère que cela va vous passionner comme cela me passionne. Le but, voir comment ce texte fonctionne pour avoir les clés aussi pour le comprendre. Et c'est Annick qui, la semaine prochaine, dans une deuxième partie, va, elle, se pencher sur les enseignements. Mais finalement, comment est-ce que ce texte de Genèse 1 nous rejoint dans notre existence ? Je vous invite à lire le texte, il n'est pas très long, et je vais le lire dans la version du Summer, Genèse chapitre 1. Vous pourrez le lire en même temps sur l'écran, il va s'afficher. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux, qui étaient au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Puis Dieu dit que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit pour que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela terre la terre ferme, et mer, l'amas des eaux. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, de l'herbe portant sa semence, et de chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, chaque espèce d'herbe portant sa semence, et chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Puis Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour distinguer le jour de la nuit et pour qu'ils marquent les saisons, les jours et les années. Que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour qu'il préside au jour et le plus petit pour qu'il préside à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Il les plaça dans l'étendue du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour ainsi qu'à la nuit et séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Puis Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre dans l'étendue du ciel. Dieu créa chaque espèce de grands animaux marins et chaque espèce d'être vivant qui se meuvent et foisonnent dans les eaux et chaque espèce d'oiseau ailé. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en ces termes, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Puis Dieu dit que la terre produise chaque espèce d'être vivant, chaque espèce de bestiaux, de reptiles, d'insectes, ainsi que d'animaux sauvages. Et ce fut ainsi. Et Dieu fit chaque espèce d'animaux sauvages, il fit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, « Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image et qu'ils nous ressemblent. Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, sur tous les reptiles et les insectes. » Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante, portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal de la terre, oiseau du ciel, et à tout animal qui se meut, à ras de terre, et tout être vivant, toute plante verte, pour qu'ils s'en nourrissent. » Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Le septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors, il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour. Il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Waouh ! Ce texte est un chef-d'œuvre sur le point de vue littéraire. Cela nous échappe parce que les codes qui sont en place ne sont pas ceux qui fonctionnent dans notre langue française, et j'aimerais vous le montrer. L'ensemble du texte est délimité par une entrée et une sortie. La fin, Dieu se reposa de l'œuvre qu'il avait créée, répond au début du texte, Dieu créa le ciel et la terre. Et entre ces deux parties, vous avez le déroulement de la création, des six jours de la création. Dans cette introduction, le développement des six jours de la création plus la fin, il y a une logique de chiffres. La première introduction, les versets 1 à 2, sont constitués de 7 fois, de 3 fois 7 mots. La description des jours 1 à 6 est composée de 7 fois 59 mots. Et la conclusion, quand Dieu se repose de ses œuvres, est composée de 7 fois 5 mots. En fait, l'auteur va jouer dans le nombre de mots qu'il utilise, c'est l'art de la poésie hébraïque, il va jouer du nombre du mot qu'il utilise pour écrire son texte, et le constat que nous faisons dans le texte en hébreu, évidemment ne comptez pas les mots en français, vous ne trouverez pas du tout, ce sont des traductions, en fait il utilise des multiples de 7. Pourquoi ? Le chiffre 7 dans la Bible, c'est la perfection. La perfection. La seconde partie, donc les six jours de la création, se divise elle-même en six sous-parties, ça vous l'avez vu, ce sont les six jours. Chaque jour de la création fait l'objet d'une section délimitée par l'expression que vous avez identifiée, qui est laquelle ? Il y eut un soir, il y eut un matin. D'ailleurs, pourquoi pas il y eut un matin et il y eut un soir ? Dans la pensée juive, et même dans le peuple, chez le peuple juif, au sein d'Israël, quand est-ce que commençait la journée ? En fait, la journée commence le soir et se termine le lendemain du soir. C'est pour ça que le sabbat commence un vendredi soir, parce que c'est la journée qui commence. Donc, ce n'est pas tout à fait la même manière de délimiter la journée. Et dans ce sens, le texte de Genèse, « Il y eut un soir, il y eut un matin », rend simplement compte de la manière dont les journées se déroulent. Quand on regarde de près ces six jours de la création, on se rend compte qu'ils sont formés de deux paires de trois jours. On a deux séquences de trois jours. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. Les jours 1 à 3, le jour 1, le jour 2 et le jour 3, décrivent dans la création la séparation du temps, lumière, ténèbres, jour, nuit, et des espaces, mer, terre et ciel. Donc dans les jours 1 à 3, création du temps et création des espaces de vie. Et dans les jours 4 à 6, qu'est-ce qui se passe ? En fait, les jours 4 à 6 révèlent l'apparition de ceux qui vont occuper ces espaces. Si lors du jour 1 est créé le jour par opposition à la nuit, le jour 4, ce sont les étoiles, la lune et le soleil qui sont positionnés dans l'espace créé le jour 1. Vous voyez comment ça fonctionne ? Au jour 2, c'est la séparation des eaux. Et au jour 3, qu'est-ce que Dieu crée ? Qu'est-ce qui existe dans l'eau ? Les animaux marins. Au jour 4, Dieu crée la terre, et avec la séparation du ciel qui est fait. Et que fait Dieu au jour 6 ? Une terre productrice d'animaux, et l'homme est créé par Dieu au jour 6 pour habiter dans ce qui a été créé au jour 4. Et donc il y a tout un jeu entre les trois premiers jours, création des espaces et du temps, et les jours 4 à 6, où Dieu va créer, et encore une fois dans un ordre qui se respecte, les éléments qui vont positionner dans ce qu'il a créé dans les jours 1 à 3. Dans le texte, en hébreu, il y a aussi d'autres petites pépites. Par exemple, sans faire de la pure poésie hébraïque, l'auteur va en utiliser quelques-uns de ses ingrédients. La poésie hébraïque, comme on la trouve dans les psaumes par exemple, l'auteur va souvent jouer avec des idées qu'il va dire de deux manières différentes. C'est ce qu'on appelle le principe des parallélismes. C'est la manière de fonctionner de la pensée. Quand on a une idée, on va la dire deux fois, des fois deux fois la même manière, des fois deux fois sous un angle différent, parfois en opposant, en le disant une fois de manière positive et une fois de manière négative. Par exemple, quand vous lisez le psaume 23, par exemple, « Il me fait reposer dans de verts pâturages et me dirige vers des eaux paisibles », l'auteur dit deux fois la même chose, mais il utilise deux cadres qui sont synonymes de paix. Le vert pâturage et les eaux paisibles. Les deux sont synonymes de paix, de repos. Une idée, le repos, évoqué de deux manières. Ou encore dans le psaume 103, quand au verset 10, par exemple, le psalmiste dit « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes », c'est la même idée, dite de deux manières différentes. Et on retrouve ces éléments dans le premier chapitre de Genèse. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y a de la lumière. Dieu appelait la lumière jour et il appelle la ténèbre nuit. En fait, ce sont des formes littéraires. Il sépare les eaux qui sont au-dessous de la voûte des eaux qui sont au-dessus de la voûte. Ça fonctionne. C'est pas tout à fait comme la poésie, mais ça fonctionne comme tel. Puis on a aussi toute une série de paires, hein, des assemblages de deux choses dans le texte. Terre et ciel, lumière et ténèbres, eau de bas, eau de haut, etc. Et puis, l'auteur va aussi jouer dans la répétition des mots. Par exemple, « Dieu vit que cela était bon », c'est une expression qui revient 5 fois dans ce chapitre. Et notamment, le 6e jour où Dieu dit que cela fut très bon. Notamment quand il crée l'homme. 10 fois, nous avons l'expression « Dieu dit »,« Dieu créa » ou encore « faire », »,« Dieu fit », la notion de « faire » et l'expression « selon leur ordre ». 10 fois, le nombre 10 dans la pensée hébraïque, c'est complet, c'est fait. 7 fois, il est dit que cela fut bon. Ou encore, 3 fois, il nous est dit que Dieu bénit. Et ces chiffres 10, 7 et 3 ont du sens symbolique à l'époque où ce texte est écrit. Enfin, dans toutes ces petites pépites dans le texte que j'essaye de vous expliquer, de vous rendre compte, je vous l'ai dit, le chapitre 1 comporte 10 paroles de Dieu. Ces 10 paroles sont séparées de la manière suivante. Vous en avez 5 dans les jours 1 à 4, et c'est un ensemble qui forme 207 mots. Okay. Retenez ça. 5 paroles. Donnés dans les jours 1 à 4, qui font 207 mots. Les 5 dernières paroles sont donc dans les jours 5 à 6 et forment 206 mots. En fait, quel est le sens de cette architecture? Tout d'abord, il ne faut pas chercher un sens mystique ou un message codé dans ces chiffres dont je viens vous parler. C'est tout simplement l'auteur qui a méticuleusement construit ce texte pour que apparaissent ces jeux de chiffres, ces éléments de répétition, ces paires de mots et la construction des 6 jours de la création. Moïse, qui est probablement l'auteur de ce chef-d'œuvre, démontre toute sa maîtrise de l'art littéraire. C'est du Victor Hugo de l'époque. Il maîtrise, mais de manière exceptionnelle, la littérature, la création d'un texte. Et il met toutes les techniques artistiques littéraires qui sont à la mode de son époque. Chiffres, expressions, découpage du texte, pour donner du relief à ce texte qui révèle nos origines. En fait, c'est un bijou sur le plan littéraire. Dans notre culture aujourd'hui, en France, dans l'usage de la langue française, nous avons des principes similaires. Dans un chant, vous avez un rythme, vous avez des rimes, vous avez des chiffres qui ont aussi leur importance. Ce sont lesquels? On ne compte pas les mots, comme Moïse, mais les vers. Je me suis perdu. 5 vers. C'est ça? Je regarde Annick. C'est des syllabes, pardon, des syllabes. Merci, c'est des syllabes. Dans la littérature française, par exemple, dans un chant, les idées ne sont pas toujours exprimées de manière directe. Il faut comprendre ce que l'auteur veut dire. J'aime Cabrel comme chanteur, alors c'est ma génération. Tout le monde connaît, histoire de ne pas passer pour un vieux qui a des références qui sont plus connues, quand même, Francis Cabrel. Francis Cabrel est talentueux, non seulement dans sa musique, mais aussi dans sa manière d'écrire les textes. Et il a une chanson qui dit, il parle de la personne qu'il aime, et il dit « Plus il y a d'espace entre nous, et moins je respire. » Plus il y a d'espace entre nous, et moins je respire. Vous voyez le jeu? En fait, il dit sa souffrance d'être séparé de l'être cher. Mais il ne le dit pas directement, parce que la littérature, la poésie fonctionne comme ça. Et si vous comparez le texte de Cabrel à une notice de montage d'IKEA, vous verrez que ce n'est pas pareil. Et vous allez prendre en compte le fait que la notice de montage, c'est IKEA, ça se lit d'une certaine manière, et que le texte de Cabrel se lit d'une autre. Et celui qui voudrait chercher des rimes, des alexandrins, dans la notice de Ikea, il sera déçu. De même que celui qui prend le texte de Francis Cabrel comme une notice technique d'Ikea dira que Cabrel se trompe, parce que plus il y a d'espace, mieux on respire. Pourtant, c'est écrit, Cabrel, il a bien dit, il se trompe. Mais parce que je ne tiens pas compte du texte, de sa nature, et de ce que, par l'utilisation de l'art littéraire, on peut dire de manière détournée. On ne peut donc pas approcher un texte sans prendre en compte son style littéraire. Et en fait, c'est déterminant pour comprendre ce que le texte veut dire. J'aimerais juste vous montrer comment appliquer maintenant à deux choses dans le texte, cela fonctionne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 10 paroles de Dieu suivies d'une formule du type « et cela fut ainsi ». Donc on a plusieurs fois dans le texte « Dieu dit » et « cela fut ». Quand on lit Genèse 1, comme nous l'avons fait ce matin, on comprend donc a priori qu'il suffit que Dieu dise. Il suffit que Dieu prononce une parole et la chose existe. Quand on lit le texte comme ça, comme on l'a lu ce matin, nous pourrions avoir cette intuition. Un peu une parole à la manière d'un magicien. Vous imaginez la scène, hein, il dit « Acabradadabra », aidez-moi, il tape sur son chapeau et voilà que le lapin sort. C'est-à-dire que l'effet « le lapin sort du chapeau » est vraiment distinct de la parole. C'est comme presque si le magicien n'y était pour rien. Ailleurs, dans la Bible, nous trouvons l'affirmation de la création du monde dans lequel nous vivons comme étant le résultat de la parole de Dieu. Psaume 33, verset 6, par exemple, l'ancien texte poétique, dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. L'apôtre Pierre aussi, dans son épître, chapitre 3, verset 5, dit que c'est Dieu, par sa parole, qui a créé le ciel et la terre. Mais Genèse 1 contient aussi des indices qui montrent que l'action créatrice n'est pas le résultat du simple fait de la parole. En fait, ce que Dieu dit, il le fait. Donc, la matière ne surgit pas de n'importe où et de n'importe quelle manière. Ce n'est pas la seule parole de Dieu qui suscite la chose. Dieu dit et il fait. Par exemple, au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux du haut. Et Dieu fit la voûte. Pareil au verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Au verset 17, Dieu les plaça dans la voûte céleste pour éclairer la terre. Cela suggère que lorsque Dieu dit, il fait en même temps. C'est quelque chose qui fonctionne ensemble. La parole de Dieu n'est pas une simple parole magique capable de faire surgir du néant de la matière, mais quand Dieu dit, il le fait aussi. Et donc, la création, le monde dans lequel je vis, n'est pas simplement le fait de sa parole, le résultat de son décret, il a dit, et la chose arrive, mais la création est aussi son œuvre. Il a donné l'ordre et il l'a faite. Dieu n'est pas comme un patron d'une menuiserie qui dessine le plan de la porte à fabriquer et qui ordonne à ses ouvriers de la faire. Il serait donc en retrait. Dieu dit et il fait. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, justement, quand il dit que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre, il poursuit en disant « Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. » Dieu dit et Dieu fait. Et aussi dans la manière dont se termine Genèse 1, Dieu se reposa de son activité, cela démontre bien que la création n'a pas simplement été le fait de sa parole, mais que Dieu a dit et il a fait. Alors j'aimerais vous proposer deux petites observations. Peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que ça change quoi, en quoi ces théories, enfin, pourquoi dire ces choses? Première déduction tout à fait pratique. Lorsque nous contemplons cette création de nos yeux, lorsque nous goûtons une pêche que nous venons de cueillir au mois de juin sur l'Armont, vous savez, en fin de journée, elle est encore chaude du soleil, et que vous croquez dedans, et c'est que du sucre, et que ça coule. Lorsque les parfums d'un champ de lavande viennent saturer votre odorat, lorsque le matin, au printemps, vous êtes réveillé à 3h30 par le chant d'un merle, ou lorsque les rayons du soleil viennent réchauffer, caresser, vous envelopper de chaleur, quand votre main touche l'écorce d'un hêtre, nos cinq sens goûtent sans interface ce que Dieu a fait. Tout ce que nous voyons, goûtons, touchons, sentons, c'est directement l'œuvre de Dieu. La création, le monde dans lequel je vis, c'est l'œuvre originale du Maître. Mon cadre de vie, ce n'est pas une copie, ce n'est pas quelque chose que Dieu a sous-traité à quelqu'un. Je vis dans ce que Dieu lui-même a fait. Et donc, quand je vois toutes ces choses, quand je ressens ces choses, quand je les touche, je touche quelque chose de Dieu, non pas que Dieu est dans la nature. La nature et la création est distincte de Dieu. Mais je vois directement ce qu'il a fait. C'est l'œuvre originale dans laquelle nous habitons. Vous savez, quand vous allez au Louvre, à Paris, et que vous voulez voir la Joconde, renseignez-vous, parce que la Joconde est un tableau qui circule dans le monde, et il pourrait arriver qu'en arrivant au Louvre, vous vous retrouvez dans la salle, et que, en fait, que ce soit une copie. On est déçu quand on regarde la copie. On veut l'original. Nous vivons dans la création originale, celle que Dieu a directement faite. Penchons-nous encore sur une notion, c'était la deuxième observation, de la parole. Dieu dit. Alors, la parole est un phénomène physique qui est bien connu. Il faut au moins trois conditions pour que le phénomène physique puisse fonctionner. Il faut des cordes vocales, il faut des oreilles et il faut de l'air. Quand je parle, comme maintenant, je fais vibrer dans ma gorge des muscles qui ressemblent à des cordes. Et c'est le fait de faire vibrer ces cordes avec de l'air qui fait que ça se transforme en un son. Comme une guitare, c'est le même principe. Et la vibration qui sort de ma bouche, en fait, elle est transmise par l'air. Le son, la voix, n'est rien d'autre que du vent. En fait, ce sont des différences de pression d'air qui se propagent dans l'air. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. Alors, l'espace, là où les satellites tournent autour de la Terre, est un lieu sans air. On ne peut pas respirer. Vous pourriez mettre le plus bel orchestre symphonique dans l'espace en train de jouer, il ne se passerait rien, puisqu'il manque un élément essentiel au son, qui est l'air. Mon oreille, ensuite, est capteur vibratoire. Le tympan va se mettre à vibrer et mon cerveau va interpréter, il collecte les vibrations qu'il transforme en musique, en paroles. Alors des fois, ça ne marche pas toujours. Si ma femme me dit de faire la vaisselle, j'entends que ça vient, mais mon cerveau a parfois du mal à capter et à décoder. En fait, la parole, une bouche, de l'air, des oreilles, ce sont des éléments qui appartiennent au monde créé. Lorsque Dieu dit, il nous faut comprendre que cette parole n'est pas un phénomène physique comme je viens de le décrire. La réalité concrète de cette parole, elle est voilée de mystère. Quand il est dit « Dieu dit » et la chose fut, comment réellement ça s'est passé? Il y a là un voile de mystère. Genèse 1 fonctionne par référence au monde créé. Donc c'est depuis, c'est par référence à ce monde que nous essayons de décrire des réalités qui sont divines et invisibles. C'est par référence à ce monde créé que Genèse 1 décrit ce qui était avant notre monde. Et donc, nous essayons de décrire l'infini. Nous essayons de décrire Dieu et sa nature à partir du monde fini et de notre dimension humaine. C'est Dieu qui utilise nos moyens, nos mots, pour parler de lui. Mais ce Dieu, il est tellement infini que nous ne pouvons le saisir, que les images, même parfois, sont incomplètes. Cette parole, la réalité concrète de cette parole acte, nous est voilée. Le comment Dieu dit est fait, nous ne pouvons dans le fond pas le saisir parce que nous sommes des êtres limités et finis. Et la Bible va souvent utiliser le principe d'analogie pour nous révéler la personne et la nature de Dieu. On appelle ça l'anthropomorphisme. Quand il est dit, par exemple, que le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour venir à notre secours, le texte veut dire qu'il n'y a aucune circonstance de vie dans laquelle Dieu ne puisse pas intervenir. Mais il utilise une image de notre humanité. Dieu n'a pas de bras. Ce n'est pas un être comme nous. Il est immatériel et esprit. Avec cette même perspective, et je termine par là, j'aimerais juste encore dire quelques mots, aborder la question des jours. Alors, c'est une grosse question qui a fait pas mal de débats. Finalement, dans Genèse 1, est-ce que ce sont des jours de 24 heures ou pas? On a vu que l'auteur joue avec des répétitions d'expressions, des paires de mots, des jours qui se correspondent. D'ailleurs, il est intéressant de voir que c'est le quatrième jour que la lune et le soleil sont créés. Or, c'est bien la lune et le soleil qui rythment nos journées de 24 heures. L'expression « il y eut un soir, il y eut un matin » cadence le programme de la création. Dès le premier jour jusqu'au sixième jour, « il y eut un soir, il y eut un matin ». Mais est-ce des journées de 24 heures? Il y a au moins deux indices dans Genèse 1 qui semblent relativiser la notion de 24 heures. Je viens de dire la première, il faut attendre le quatrième jour pour que la lune et le soleil soient placés dans le firmament. Et d'autre part, le sixième jour, qui marque la fin de la création, a bien un début, puisque c'est le sixième jour qui est nommé, mais il n'a pas de fin. Le sixième jour ne se termine pas par l'expression « il y eut un soir, il y eut un matin » parce que nous sommes encore dans le sixième jour. Au sens de Genèse 1, la création est terminée le sixième jour. Allez-y, le jardin est ouvert. Vivez, multipliez-vous, goûtez, profitez, faites prospérer. Donc la notion, la manière de comprendre cette notion de jour, elle est toute relative. En tout cas, il faut de la prudence si nous voulons y caler des séquences de 24 heures. D'ailleurs, c'est bien à la fin de la création, au plus tard le sixième jour, que nous sommes dans nos cycles de 24 heures. Saison, printemps, été, automne, hiver, tout ça se déroule depuis le sixième jour. En tout cas, au plus tard le sixième jour. Dans Genèse 1 aussi, rien ne semble relativiser la durée d'une journée pour la quantifier comme Dieu le ferait. Alors là, je prends tout à fait un autre angle de vue. Vous connaissez l'expression que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Mais dans Genèse 1, il n'y a rien, aucun indice qui semble relativiser la notion de temps, hein, qui semble dire qu'en fait, on aurait des périodes élastiques, peut-être. Au contraire, le texte utilise la notion des journées ordinaires, il y eut un soir, il y eut un matin, la manière dont on parlait au temps de Moïse des journées. Il utilise la notion des journées ordinaires, et que veut-il faire au travers de cela? Nous décrire la création comme un processus ordonné, séquencé. La vie est apparue par ordre, et de manière ordonnée. Et c'est l'acte créateur de Dieu Dieu accomplit son travail de même manière dans nos réalités humaines que nous accomplissons notre travail pendant toute la semaine pour ensuite se reposer de nos œuvres le jour du dimanche. Le résultat de ce travail du Créateur, pour nous faire comprendre ce travail, le résultat de ce travail du Créateur met aussi fin à l'acte créateur. Et donc, en fait, l'auteur va utiliser une notion qui nous est complètement commune, celle de la journée, pour nous rendre compte la manière dont Dieu a dit et a opéré ce qu'il a fait dans la durée. La vie est apparue de manière progressive et ordonnée, et nous vivons aujourd'hui dans une création finie. Le sixième jour marque la fin de la création. L'intention de Moïse dans Genèse chapitre 1 n'est pas de nous montrer et de nous expliquer avec précision le comment de la création, mais avec, par analogie, en utilisant des notions qui appartiennent à notre monde créé, les jours, la séparation des éléments, nous avons une fenêtre qui est ouverte sur nos origines. Et l'intention de l'auteur au travers de Genèse 1, c'est de nous faire comprendre, et c'est quelques thèmes que Annick va développer la semaine prochaine, c'est de nous faire comprendre que nous vivons déjà dans un monde créé. Ce monde n'est pas issu du hasard, il n'est pas le fruit d'une bataille des dieux dans les lieux célestes. En fait, dans le contexte de l'époque, qui est essentiellement polythéiste, c'est-à-dire qu'on a une vision du monde où il y a des dieux qui dans le ciel se livrent des batailles, et le résultat des batailles, c'est ce que nous en subissons les effets sur terre, le fait de dire qu'il y a Dieu et qu'il est le Créateur, c'est déjà l'affirmation massive d'un Dieu unique qui n'a pas de concurrent, qui est le seul. C'est révolutionnaire dans le contexte de l'époque. Pour nous, ça nous paraît évident parce que nous avons découvert, parce que c'est notre origine peut-être religieuse, catholique, etc. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il a créé ce monde. Un autre message, c'est l'harmonie de ce monde créé. Et puis, il y a aussi ce que ça représente pour nous. Genèse 1 nous révèle que nous sommes une créature de Dieu. Ce qui va fonder la dignité, d'autant plus que c'est en image de Dieu. Nous sommes ses représentants. Puis ce texte nous dit aussi que l'homme n'est pas Dieu, qu'il nous faut constamment se rappeler qu'il y a Dieu et que je suis la créature. Et ce texte va aussi aborder la question du repos, du travail. Mon objectif donc ce matin était de vous faire toucher du doigt la manière dont ce texte fonctionne et de montrer à l'aide de deux exemples comment les principes, comment son fonctionnement va influencer la compréhension. Il nous faut savoir ce que l'auteur veut dire et chercher à comprendre dans ce contexte littéraire riche, et ne pas se tromper, s'égarer dans des débats ou des questions en fait auxquelles l'auteur ne répond pas. Et nous le faisons toujours dans notre dimension humaine, face à un texte qui nous est donné de Dieu, un Dieu infini, qui nous révèle ce que nous pouvons comprendre avec aussi des frontières et des questions qui nous dépassent. Et donc ce texte appelle aussi à l'humilité dans la découverte et dans les enseignements que nous voulons tirer. Et donc, je fais le teaser pour la semaine prochaine, qui se penchera sur quelques enseignements qui nous rejoignent de manière plus directe dans notre vie et dans ce que cela implique pour nous. J'espère que vous avez réussi à suivre, que ça n'a pas été trop théorique. Je suis plutôt scientifique. La mécanique et les mathématiques m'attirent plus que la littérature, et donc si vous avez décroché sur ces questions littéraires, je le comprends, j'aurais probablement fait pareil. Mais on ne peut pas passer à côté. C'était comme si on passait à côté de la Joconde sans expliquer comment ça fonctionne. Vous vous rendez compte? Ce serait un non-sens. Vous avez la Joconde à votre côté et vous partez au McDo. Regardons comment ça fonctionne. Faut au moins l'avoir fait une fois dans sa vie.